Club de la presse, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 11h sur Canal FM.
Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain, que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons la censure, la couleur du bon miel. Les gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne va pas circuler les bêtes comme ça.
Ils sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement que
il faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes très ravis d'être en votre compagnie sur la 93.5. Et vous comprenez sans doute que vous êtes alors dans l'émission Club de la Presse. Nous sommes au jeudi, enfin nous sommes au vendredi, autant pour moi, et 5 juillet 2024, et il sonne 11h. Sur votre radio, vous comprenez que nous sommes au cinquième numéro alors de cette émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas était d'ATV est à la mise en onde. Jérôme Dakouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpamé, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous pouvez également nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Libin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi et aussi des invités, bien sûr. Alors, confrères journalistes, nous sommes au vendredi, Germain et Soranam Pouli.
Bonjour à tous les auditeurs de Canal FM.
J'espère que tu as bien passé la semaine.
Oui, la semaine s'achève bien, grâce à Dieu.
D'accord. Firmin Tekou, bonjour.
Bonjour Pascal Lousseau, merci de m'avoir invité.
D'accord, j'espère que tu vas bien.
Oui, je vais bien avec la grâce de Dieu, avec une semaine qui s'achève très bien. On ne peut que rendre grâce à Dieu.
On ne peut que rendre grâce à Dieu. Gosson Ketomanian, bonjour.
Pascal, bonjour. Et bonjour aux éditeurs de la part du journal Liberté.
Voilà, puisque il faut quand même le signifier que vous êtes à l'ordre du journal Liberté. Et le journal Liberté se porte très bien, je pense.
À part ce qui ne va pas, on peut dire que le reste ça va.
Et qu'est-ce qui ne va pas?
Tu ne me diras pas que chez toi tout va pour le meilleur des jours, que tout va bien. C'est pas possible.
D'accord, nous sommes là déjà pour le débat sur l'actualité et nous serons accompagnés également de d'un ami qui est avec nous, Sylvanus Agadon, bonjour.
Bonjour, bonjour à tout le monde.
Sylvanus, comment vous allez?
Ça va, merci, j'espère que vous aussi vous allez bien. C'est un honneur et un privilège pour moi de me retrouver autour de cette table avec mes aînés.
Vous êtes acteur de la société civile et aussi vous êtes un analyste politique. Et donc, vous allez mener ce débat avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi.
D'accord. Invité, nous avons un invité. Alors, ce matin, tout récemment a été lancée la semaine alors de l'artisanat. Nous allons parler de l'artisanat parce que ça tient à cœur, ça nous tient à cœur. Et au-delà même d'ailleurs de cela, on sait quand même que l'artisanat l'artisanat occupe une place prépondérante dans les portefeuilles et même d'ailleurs du gouvernement. Et pour en parler et savoir quelles sont les difficultés de l'artisanat, quelle est l'importance de l'artisanat aujourd'hui, nous avons avec nous Monsieur Issa Mohamed. Monsieur Issa, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le président de l'Union des chambres régionales alors des métiers, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça.
D'accord. Alors, c'est vrai, quand on parle alors de l'artisanat aujourd'hui, c'est quoi l'importance de l'artisanat?
Oui, l'importance de l'artisanat d'abord, c'est sa diversité des métiers. Nous avons pratiquement 165 métiers qui sont inventoriés et nous avons pratiquement près de 65 métiers qui sont des métiers actifs. Porteurs, qu'on peut dire. Vous comprenez déjà que nous avons près de 800 000, je répète bien, artisans et artisanes autour, disons. Et nous avons pratiquement 100 000 qui sont inventoriés. Et nous avons 65 000 qui détiennent des cartes avec des codes qui sont bien déterminés. Ça veut dire que l'artisanat, en quelque sorte, c'est un domaine vaste, bien structuré, et avec pratiquement tous les organes possibles que vous pouvez retrouver de l'OMS jusqu'à 5 à 5.
J'en parlais tout de suite. Je voudrais parler alors surtout alors de la place de l'artisanat déjà dans notre société, mais au-delà de cela, quelle place occupe l'artisanat au niveau alors du gouvernement?
Écoutez, aujourd'hui, bon, je crois que vous êtes des journalistes. D'abord, je tiens à vous remercier très sincèrement d'abord pour nous avoir invité à ce club de presse. L'artisanat occupe, comme vous le savez déjà, plus de 18% au PIB, ça veut dire au produit intérieur brut, vu l'importance de ce secteur. Le gouvernement accorde une place prépondérante à ce secteur par rapport à tout ce qui entoure ce secteur de l'artisanat. Vous savez que le secteur de l'artisanat, si on le dit, c'est pratiquement l'antichambre de l'industrie. Alors donc, ça veut dire que tout ce qui peut être fait pour que l'artisan puisse sortir et être vraiment un grand entrepreneur, avoir une industrie capable de produire à la chaîne, c'est ce que nous faisons depuis. Et c'est ce que le gouvernement aussi s'attelle à pouvoir faire en nous accompagnant dans nos activités.
Alors, concrètement, quelles sont les difficultés auxquelles l'artisanat est confronté alors dans notre pays?
Écoutez, je crois que vous, les journalistes, vous êtes tellement loin de tout ce qui se passe, mais seulement nous pouvons vous dire aujourd'hui que l'artisanat est confronté à deux problèmes. Ça ne veut dire pas des problèmes majeurs, mais c'est des problèmes inhérents à notre apprentissage. Quand vous prenez par exemple la finition, depuis un certain moment, nous attelons à dire aux artisans d'être très performants, d'être vraiment des artisans qui puissent quand même produire quelque chose qui aujourd'hui peut être compétitif, d'abord sur le plan national et international. Donc il faut la perfection. Il faut la finition, une bonne finition. Et ensuite, c'est les délais de commande. C'est aussi un problème. Et nous sommes toujours dans ce domaine parce que vous êtes aussi des clients pour nos artisans. Ça veut dire, aujourd'hui, nous attelons à dire que nous pouvons tout faire pour que, lorsque nous donnons des délais pour les livraisons, qu'on puisse les respecter. Et peut-être les respecter même avant même le délai. Mais au-delà, et ça devient un problème. Et ça, nous attirons à des choses comme ça. Bon, le problème financier est un problème sur toutes les lignes. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'artisanat n'a pas un problème financier. Mais nous attirons avec l'apport du gouvernement à pallier à certaines des difficultés.
Alors, c'est vrai que parmi les difficultés évoquées tout de suite, ce qui m'intéresse plus, c'est justement par rapport aux commandes, quand on arrive à commander soit un métier ou du moins un service auprès de l'artisan, on a des difficultés même à rendre alors ces commandes, ou c'est peut-être on n'est pas alors dans le délai, mais toujours est-il qu'avec ça, le client doit fuir l'artisan si ça arrive comme cela.
Oui, vous avez pleinement raison, mais c'est pourquoi depuis un certain moment, nous avons commencé par former nos artisanes et artisans dans ce domaine. Comment on fait? Pratiquement, c'est une programmation. Si une bonne programmation est faite de tout ce qui est commandé, on pourrait tenir dans le temps. Mais l'artisan, à un certain moment, ne fait pas une programmation. Il est en train de faire un travail d'une commande donnée, et un autre arrive, il laisse ça, il s'occupe de ça, et il ne finit pas le premier. Donc nous nous sommes dit qu'on doit tout faire pour que les gens puissent respecter les programmations, et c'est, les formations aujourd'hui et les perfectionnements s'articulent sur ces deux points-là.
Alors, monsieur le Président, un autre problème que nous rencontrons souvent, c'est que déjà il y a des artisans à un moment donné qui ne trouvent plus à faire, et comme ils ne trouvent plus à faire, automatiquement se retrouvent dans les zones franches et tout. Alors, finalement, comment vous arrivez à gérer ce problème, et quelles sont les solutions aussi, ou les pistes de solutions que vous préconisez?
Merci beaucoup pour cette question qui est vraiment d'actualité. Nous sommes dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un artisan ou une artisane se dise satisfait d'abord de son métier. Alors, nous nous sommes dit, d'abord, il faut que l'artisan puisse vivre de son métier. Et là, quand l'artisan vit de son métier et qu'il arrive à nourrir au moins 3 à 4 bouches autour de lui, ça veut dire qu'il peut se sentir comme vraiment un citoyen lambda qui vit dans un pays et qui se nourrit et qui nourrit sa famille. Donc, nous avons donné de l'importance à ce métier. Si vous allez constater depuis un certain moment, ça fait pratiquement quelques années, on opte pour l'artisanat. On ne devient pas artisan. On opte pour l'artisan. Ça veut dire pratiquement, on se dit que je veux apprendre tel par volonté, et on peut aller apprendre tel et on devient tel. Donc, je donne un exemple. Un menuisier s'est dit, j'ai tel niveau, mais je peux aller apprendre la menuiserie.
Et c'est ça son inspiration.
Et c'est son inspiration. Et il apprend la menuiserie, il devient menuisier et il travaille dans la menuiserie. Donc, avant, ce n'était pas comme ça. Avant, c'est parce que il a raté plusieurs fois les études. Et on dit, bon, comme tu as raté plusieurs fois, alors on te pousse vers un métier. Et mais maintenant, ce n'est plus le cas.
C'est tout comme une porte de sortie.
C'est les gens optent pour être artisan. Vous comprenez déjà que donc, c'est plus que devenir un citoyen normal et qui vit de son métier.
Mmh. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites alors pour donner plus de valorisation ou de valeur à l'artisanat?
Ah, ça, vous savez, ça, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Ça veut dire pratiquement lorsque vous prenez des prix qui sont donnés chaque année aux meilleurs artisans, ça stimule. Ça rend les artisans concernés par leur métier. Ensuite, les grands marchés, les marchés qui sont aujourd'hui le Miato, ça veut dire le marché international des artisans qui se déroule chaque 2 ans. Et nous avons aussi des foires sur le plan régional qui sont là et qu'on envoie des artisans. Ça veut dire pratiquement qu'aujourd'hui, il y a un vaste marché pour les artisans.
D'accord. Je sais que au-delà du journalisme, il y a Germain Poulier également qui est un artisan. Et Germain, vous avez écouté Monsieur Issa se prononcer sur l'artisanat et aussi la valeur, ou du moins c'est la valorisation, la promotion de l'artisanat aujourd'hui. Vous pensez vraiment qu'il y a quelque chose qui est fait puisque vous êtes aussi du domaine?
Oui, je salue le président que j'ai eu l'honneur de connaître il y a une dizaine d'années quand il était président de la Chambre des métiers de la région centrale. On a travaillé ensemble sur la foire artisanale à Sokodé. C'est un grand homme, c'est un monument de ce secteur. Je suis heureux aujourd'hui qu'il soit à la tête de l'Union, donc des chambres régionales des métiers. Et il a dit quelque chose d'important, c'est on ne devient pas artisan, on opte pour l'artisanat. Ce n'est pas ce qui échouent à l'école, qui doivent aller apprendre des métiers. Pendant longtemps, c'était comme ça dans la tête des parents. On dit, mais il ne réussit pas, il sort, il apprend le métier. Ça a marché. Les artisans, beaucoup, sont sortis comme ça. Ils sont d'ailleurs mieux que ceux qui ont poursuivi les classes. Si vous constatez aujourd'hui, les artisans sont plus riches que les diplômés. Mais ce que le président dit qui est très important, c'est qu'on a des dons. Et on peut aller à l'école, avoir le bac, et après devenir artisan, tout comme on peut arrêter très tôt pour être artisan. Mais il ne faut pas échoué dans l'artisanat. Il ne faut pas aller dans l'artisanat parce qu'on a échoué ailleurs, parce qu'on se dit, bon, il faut aller se réfugier. Et je crois que c'est quelque chose d'important que le président dit. Moi, je pense qu'il faut passer ce message, surtout dans les universités aujourd'hui. Plusieurs jeunes ont des talents dans des métiers inimaginables pour être de bons artisans. Mais préfèrent aller à l'université, se casser la tête au bout de 4 ans, 5 ans, ils reviennent avec un diplôme et c'est maintenant qu'ils viennent apprendre un métier. Donc, ils ont perdu un temps, les 4 ans, là, à l'université. Ils peuvent aller découvrir l'université pour une année s'ils le souhaitent. Mais aujourd'hui, nous avons des métiers dans lesquels on a besoin d'intellectuels. Prenez aujourd'hui la mécanique avec les voitures qui arrivent maintenant. Mais on a plusieurs mécaniciens qui sont dépassés. Ceux-là qui n'arrivent pas à se recycler sont dépassés et ils aggravent les pannes auprès des propriétaires des voitures. Mais si des étudiants ou des bacheliers ou des intellectuels ou des gens qui ont réussi à l'école, qui peuvent faire le droit, qui peuvent faire l'agronomie et tout ça, mais qui font la mécanique, qui font autre chose, la boulangerie, tout ce qu'on veut, mais on va évoluer. Et puis, le disait, l'artisanat, c'est une contribution énorme au niveau du PIB. Et moi, ma question, c'est un peu le temps de formation, parce que j'estime que on perd beaucoup de temps aux apprenants dans les ateliers, certains font 3 ans et plus. Et est-ce que quelqu'un qui a un bon niveau, est-ce qu'en un an maximum, est-ce qu'il ne peut pas prendre un métier entre 6 mois, 1 an et tenir? Parce que je vois que c'est un peu ça qui décourage aujourd'hui certains apprenants. Ils n'ont pas le courage de rester 3 ans dans un atelier, par exemple, dans un centre de formation, où parfois le patron passe tout son temps à ne rien lui apprendre. Il attend les dernières années pour lui apprendre des choses. Et il est là, il sert à autre chose. Et est-ce que vous réfléchissez à ça pour motiver l'apprentissage? Parce qu'aujourd'hui, le constat que j'ai fait, plusieurs ateliers sont vides. Les jeunes ne veulent pas apprendre des métiers. Et l'une des raisons, c'est que le temps d'apprentissage semble être très long.
Monsieur Issa, oui. Vous avez écouté la question de Germain. Oui. Je sais que c'est une question qui lui tient tellement à cœur. On en a discuté hors micro et il m'a toujours posé le problème. Et c'est vrai, pour ce qui concerne surtout le temps d'apprentissage, aujourd'hui, est-ce que pour quelqu'un qui a un niveau déjà acceptable en matière alors d'éducation ou en matière d'instruction, est-ce qu'on ne peut pas lui réduire aussi le temps de formation, d'apprentissage?
Oui, je tiens d'abord à remercier M. Germain parce que c'est aussi un grand homme dans le côté journalistique, mais qui a aussi côtoyé beaucoup l'artisanat parce que je me rappelle Fatou. La foire artisanale de nous qui est devenue maintenant Miato, c'était vraiment nos journalistes qui quand même relayaient l'information et c'est ça qui nous a permis quand même de briller pour cette foire-là. Bon, je reviens maintenant sur sa question. Effectivement, il y a des passerelles. Aujourd'hui, lorsque vous avez un niveau intéressant, un niveau d'abord qui vous permet de comprendre tous les éléments, vous pouvez avoir un temps court pour votre apprentissage. Ce qui se passe un an, c'est le minimum, mais bon, parce que nous ne pouvons pas avoir un apprentissage dans 6 mois pour, par exemple, la mécanique, pour la maçonnerie, pour la menuiserie, etc. Il y a des constantes que je peux dire qu'il faut avoir, c'est-à-dire des connaissances qu'il faut avoir, et dans moins d'un an, on ne peut pas, même si vous êtes docteur, vous ne pouvez pas les maîtriser. Donc ça veut dire que pratiquement, nous disons minimum 1 an et plus. Alors donc, on peut aujourd'hui apprendre un métier dans 1 an.
D'accord, je pense qu'on va en arrêter là pour ce qui concerne l'artisanat puisque nous avons d'autres sujets également à débattre aujourd'hui. Monsieur Issa Mohamed, merci d'être passé alors dans cette émission. Si vous avez un mot de fin pour terminer cet entretien.
Oui, effectivement, vous savez, nous sommes venus aussi pour vous annoncer que nous sommes dans les journées de l'artisanat.
Tout à fait.
Du 28 au normalement au 12, mais qui peut se prolonger jusqu'au 19 juillet. Hein. L'apothéose se tiendra effectivement à Kara le 19 juillet prochain. En tout cas, c'est une grande fête. Vous savez tout ce qui se passe aujourd'hui. Je peux en quelques mots seulement, parce que c'est très important, en quelques mots vous dire que dans les préfectures, dans toutes les préfectures, hein, nous avons pratiquement 37 plus 7, hein, ça fait 44. Nous avons des activités telles que, par exemple, les mini-foires, le reboisement et les conférences. Alors, donc, ça veut dire que pratiquement, c'est la ferveur, en quelque sorte. Nous, c'est notre fête, c'est nos journées. Et l'apothéose se tiendra à Cara le 19. C'est un peu prolongé, mais c'est le 19 à Cara, avec l'ensemble des acteurs de l'artisanat. Alors, donc, nous tenons quand même à inviter tous les corps de presse, les journalistes qui peuvent nous relayer l'information.
Tiens, vous remercie. D'accord, merci beaucoup, monsieur Issa Mohamed, alors d'être passé alors dans cette émission. Nous avons parlé alors de l'artisanat. Merci d'être passé, merci d'avoir répondu aussi à nos questions. Alors, chers confrères, nous tournons vers d'autres sujets de l'actualité. Et hier, déjà, nous allons parler de l'indice hein, de développement humain. Et nous en parlions et déjà dans nos émissions précédentes. Mais hier, déjà, il y a la ministre secrétaire du gouvernement qui a échangé avec la presse alors sur les points saillants, hein, des points quand même qui ont amené le Togo à être alors premier dans l'UE. Moi, par rapport à cet indice alors de développement humain. Il y a beaucoup de journaux qui sont revenus sur le sujet aujourd'hui. Il y a le journal Harakiri qui est revenu sur le sujet. Il parle alors de rapport sur l'IDH, les chiffres clés, bien sûr. Et c'est ce qu'a écrit le journal ce matin. Le journal Togo Matin aussi est revenu sur le sujet. Indice de développement humain 2023-2024. Le Togo a assuré fort et numéro 1 au sein de l'UMOA. C'est ce que écrit aussi le journal Togo Matin, ce matin bien sûr. Alors, Gosson, on a commencé par parler de cette actualité depuis. Je veux bien parler alors de cette question de l'indice de développement humain. Le Togo occupe la première place au sein de l'UMOA et quatrième place au sein de la CEDEAO, dans l'espace CEDEAO bien sûr. Mais là, ça doit être quand même félicité. C'est à saluer cet indice, je pense.
Si on le dit, on a oublié de le croire. Mais bon, indice de développement humain, premier au sein de l'UMOA. Concrètement, ce n'est pas à nous d'apprécier ce rang-là, mais aux citoyens lambda. Voilà. Parce que ils voudraient bien savoir les critères qui ont conduit à ce classement. Quand il sait que au quotidien, ça ne lui est pas aisé et qu'il apprend que au sein des 8 pays, c'est le Togo qui est premier, il voudrait comprendre et justement ces critères-là. Parce que moi, personnellement, je me dis, si ça peut apporter un plus aux citoyens, tant mieux. Parce que c'est quoi l'objectif de l'IDH? Il faudrait qu'on fasse passer le message au niveau de la majorité de la population afin que chacun puisse apprécier et évaluer. C'est tout ce que vous
voulez. D'accord. Sylvanus, déjà ce chiffre, hein, où c'est des chiffres quand même qui sont basés sur des indicateurs bien précis. Et aujourd'hui, est-ce que vous voyez quand même que déjà ce classement est traduit dans les réalités chez le citoyen?
Alors déjà, je voudrais, dans le terme de mes propos, remercier à nouveau la rédaction, vous, qui avez voulu m'inviter sur ce plateau. Alors pour répondre à la question, c'est parfois, je veux dire, jouissif pour les Togolais d'entendre, ou du moins c'est pour chaque citoyen d'entendre que son pays est classé à des, je veux dire, sur un piédestal par rapport aux autres pays. Mais il faudrait aussi, parfois, la main sur le cœur, être honnête envers soi-même et se poser les vraies questions. Quand on a donc de ces genres de classements, il faudrait que ça se traduise véritablement dans l'amélioration des conditions de vie des concitoyens. Et je vais marteler principalement sur cet aspect, peut-être tout au long de mon entretien, de mes propos, en disant que la politique, parce que l'IDH aussi, ça se base aussi sur plusieurs critères. Et quand on dit développement humain, je considère quand même que aujourd'hui au Togo, où on nous parle de au moins 52 ou 55% donc de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, je crois qu'il vit d'ailleurs moins de $2 par jour. Je crois qu'il est important que ces chiffres se traduisent véritablement dans l'amélioration des conditions de vie des concitoyens. Et justement, je veux faire un lien avec les artisans dont on parle aujourd'hui. Et je pense que ailleurs, où il y a une certaine professionnalisation, un certain niveau des artisans, ils sont fiers d'ailleurs de se dire ou de dire qu'ils sont justement artisans. On prend les pâtissiers, on prend les artisans, on prend les menuisiers, c'est une fierté de dire qu'on est artisan. Parfois sur dans les grands événements, il y a des couturiers qu'on présente, les Dolce Gabbana, les Louis Vuitton, on parle de couturiers. Alors là, ça ne fait pas honte, c'est d'ailleurs même un honneur. Mais chez nous, malheureusement, quand on parle de ce genre de métier, on a l'impression que c'est justement des métiers qui sont à des gens qui sont attardés, qui ne peuvent pas faire les choses correctement. Et je me dis que ces chiffres sont bons sur papier, mais dans les faits, il faudrait vraiment que ça se traduise dans l'amélioration des conditions de vie des concitoyens.
D'accord, merci Sylvanus. Jamais Pouli, alors quand on suit ces chiffres, c'est vrai que c'est des chiffres qui présentent le Togo à l'extérieur comme étant même d'ailleurs premier et tout, mais est-ce que finalement, premier, est-ce que ça se reflète aussi dans le quotidien du Togolais?
Oui, ben, en fait, j'ai eu la chance d'être à cette rencontre hier et presque comme tout le monde, on était surpris des chiffres qui ont été avancés. Alors, l'exercice pour le gouvernement hier, c'était d'expliquer sur quels critères, quelles sont les réalisations, qu'est-ce que le Togo a fait pour mériter d'être le premier en termes d'indice de développement humain au sein de l'espace UMOA et être le quatrième pays, après le Nigeria, le Ghana et le Cap-Vert, donc au sein de la CEDEAO. Alors, mais quand le ministère du plan, de la planification nous présente des chiffres, mais on se rend compte qu'il y a un déficit énorme de communication au niveau du gouvernement. Parce que même en tant que journaliste, il y a beaucoup de choses qu'on ignorait qui sont faites. Et donc ça, c'est des données, c'est des réalités collectées par le PNUD dans tout ce pays-là, et sur la base desquelles il y a eu ce classement. Alors, brièvement, le classement se fait au niveau de trois critères. C'est déjà au niveau de l'éducation, de la santé et du niveau de vie.
Oui.
Quels sont les efforts que les pays ont fait dans ce domaine? Mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé au Togo en termes chiffrés et qui existe réellement. Aujourd'hui, on va dire, ben, par exemple, il n'y a pas de classe, là, les élèves dorment sous les... tout ça. Mais on ne saura même pas qu'il y a eu 5000 salles de classe qui ont été construites, par exemple. C'est un exemple que je donne. Hein. On ne sait même pas, on dit qu'il n'y a pas des hôpitaux, tout ça. On ne sait même pas qu'il y a un projet de réhabilitation des CHU de Lomé, des Kara qui a démarré depuis. Et il y a des projets de construction de plusieurs centres de santé dans plusieurs préfectures pour rapprocher les malades des centres de santé. Et on a vu un peu dans la région de Savane la dernière fois, il y a une soixantaine de centres de santé qui ont été inaugurés. L'année dernière, je pense, la chef du gouvernement a fait une tournée. Mais c'était une partie de l'iceberg. Donc, dans plusieurs domaines, que ce soit au niveau des puces rurales, au niveau des ponts, au niveau de l'agriculture, nous étions surpris de savoir que tout ça a été fait au Togo et ça a mobilisé des centaines de milliards. Et c'est contenu dans la feuille de route qui arrive à terme donc en 2025, sur 2020-2024. Donc, je crois que ce classement, les critères ont rejoint un peu certains axes de la feuille de route du gouvernement qui a commencé un travail énorme dans ce sens. Et on avait des chiffres, on n'en revenait pas. On se dit, mais quand vous êtes à Lomé, on vous dit que tout ça se passe, vous dites non, c'est pas vrai. Donc, ce qu'on a pu dire au gouvernement hier, c'est que vraiment, il n'y a pas l'information.
Il n'y a pas assez de communication.
On n'a pas l'impression que le Togo a fait tout ça. Et quand on le dit réellement, depuis qu'on annonce ce classement, les gens sont surpris, se demandent mais comment le Togo peut être premier, c'est pas possible. C'est-à-dire que les gens ne voient pas ce qui a pu être fait. Ça a été fait dans le domaine de la santé et tout ça, dans le domaine
de l'éducation.
Je crois que l'exercice hier était une bonne chose, mais après, ça ne veut pas dire que les problèmes sont réglés. Ça ne veut pas dire que le Togo est un pays qui n'est plus pauvre. Mais en termes d'efforts qui ont été fournis au profit de l'homme et de son bien-être, au niveau de Lyomowa, je crois que le Togo a fourni plus d'efforts, en tout cas selon le PNUD, donc qui a fait ce classement-là. Et il faut qu'on communique un peu, pas pour encenser le gouvernement, mais pour dire quand même qu'il y a de l'espoir s'il y a ce rythme-là. Si on continue à ce rythme-là, probablement d'ici quelques années, et nous aurons un statut de pays émergent, la misère va être un peu plus en recul. Maintenant, c'est vrai que nous-mêmes, on a tendance à ne pas valoriser ce qu'on fait. Et il le disait tantôt, certains artisans, par exemple, ne sont pas fiers de le dire. Même certains étudiants, je viens là. Quelqu'un qui vous dit qu'il fait Zemidjan, c'est comme s'il avait pitié de lui. Quand il vous dit qu'il fait Zemidjan. Alors que je peux vous assurer que des Zemidjan gagnent beaucoup plus que des journalistes, gagnent beaucoup plus que des enseignants, gagnent beaucoup plus que des agents de sécurité, tout ça. Mais ils ont comme l'impression qu'ils font un mauvais boulot. Et un peu chacun, malheureusement, hein, dans nos pays, c'est comme ce que disait le président tout à l'heure. Tout le boulot que nous faisons, c'est comme si on le fait dans l'attente d'un boulot meilleur ou parce qu'on n'a pas trouvé mieux. Personne ne se dit qu'il a choisi de faire ce boulot et qu'il va grandir dedans. Nous avons un peu ce problème-là, peut-être qu'il faut penser à rectifier cela.
D'accord. Fermin, à l'allure de ces chiffres, est-ce qu'on peut dire tout simplement qu'en matière de l'émergence, il y a de l'espoir?
Bon, il y a de l'espoir. Le monde ne s'arrête pas aujourd'hui. Le monde ne va pas s'arrêter demain non plus. Il y aura toujours de l'espoir. Vous savez, moi, j'ai toujours un reproche à faire à l'endroit de ceux qui nous gouvernent. Parce que vous savez, l'autre fois, je m'amusais à suivre un peu l'actualité au Sénégal. C'est-à-dire, je comparais un certain nombre de chiffres. Mais vous vous dites, quand vous comparez les domaines, vous vous dites qu'en réalité, le Togo n'est pas le dernier. C'est que, au fait, chez nous, on peine à communiquer suffisamment. Parce que moi, quand je suis tombé hier sur des chiffres, quand on parle d'IDEAS au Togo, mais je me suis dit, mais comme Germain, moi je n'ai pas été à l'atelier, mais comme j'aimais, j'étais tellement surpris parce que quand vous voyez des chiffres ici, vous dites, c'est au Togo. Par exemple, sur la plateforme industrielle d'Addis Copé, on dit près de 6 000 emplois ont été créés. Ça, c'est un chiffre. Regardez, je continue. Et aussi, par exemple, accès à l'eau potable, on dit 69% contre 60% en 2020. 69%, ça veut dire en 4 ans, il y a une augmentation de 9%. Infrastructures scolaire. Plus de 5000 classes, salles de classe construites ou réhabilitées et plus de 5000 nouveaux enseignants enregistrés. Transition secondaire, 52,2%. Je continue. Il y a un chiffre au niveau de la santé, c'est extraordinaire. Programme Wezou, plus de 400 000 femmes bénéficiaires et plus de 220 000 accouchements effectués. Renforcement du personnel médical. C'est ça qui m'a paru un peu bizarre, en fait.
Oui, mais voilà. Pour ces chiffres, si la population ne voit ou la population semble ne rien voir, est-ce que ça ne veut pas dire peut-être que les chantiers sont énormes?
Non, oui, bon, les chantiers sont énormes. Mais quand nous parlons de population, nous mettons quoi dedans? Il y a une partie de la population qui est satisfaite. C'est ce que je trouve bizarre. Parce que quand on dit renforcement du personnel médical, on dit plus de 2500 agents recrutés avec d'autres recrutements en cours. Personne ne le savait. Moi, ça m'a paru bizarre. Par exemple, secteur de la santé. Accessibilité géographique aux soins de santé. 90,7% en 2023 contre 71% en 2020. C'est des populations, c'est des Togolais qui ont bénéficié de cela. Et puis, il y a la phrase de Sandra Johnson. Plus vous parlez d'elle, qui m'a interpellé. On dit, le Togo a fait le... C'est Sandra Johnson, la secrétaire générale de la présidente de la République, qui le dit. Le Togo a fait le choix du développement centré sur l'homme. Le processus le plus difficile en économie. Le Togo n'a pas de pétrole et n'a pas investi des milliards dans des infrastructures routières
de dernière génération, mais il a mis l'homme au centre de son développement. Le développement humain prend du temps car il est complexe.
D'accord.
Mais si vous arrivez à réussir, c'est un développement durable.
D'accord.
Alors, qu'est-ce que je vais essayer de démontrer
rapidement.
Rapidement, c'est que le Togo fait des choses extraordinaires. Mais on ne communique pas. C'est ce qui fait que nous, journalistes, on va critiquer. On va critiquer. Par exemple, ces derniers mois, depuis que ceux-là qui sont au pouvoir au Sénégal, on ne vous le dira pas. Mais quand vous avez fouillé un peu de l'actualité sénégalaise, ces jeunes souffrent. Parce que tout d'abord, il n'y a rien dans la caisse. Et ces jeunes sont en réalité bloqués. Ils n'arrivent pas à relancer l'économie. C'est un élément. Et maintenant, ils ont besoin d'argent pour investir dans presque tous les domaines. Ce que nous avons ici, Macky Sall n'a pas pu faire ça avant de partir. Vous imaginez, par exemple, sur le marché financier, l'autre fois, le jeune Diomaye Faye est allé sur le marché et il a été obligé d'aller chercher de l'argent. Plus de 1 000 milliards de francs CFA. Au niveau de la BAD, il a cherché.
D'accord.
Au niveau de l'UEMA, il a cherché.
Revenons au Togo.
Donc, revenons juste dire qu'en réalité, nous avons presque les mêmes difficultés en termes de gouvernance. Mais le Togo fait des choses extraordinaires avec des reproches qu'on le lance, mais ils peinent à communiquer. Et tant qu'ils peineront toujours à communiquer, on dira qu'ils ne font absolument rien.
D'accord. Gasson, finalement, c'est la communication le problème, parce que si on voit même des chiffres qui témoignent que non, le Togo a occupé le premier alors dans l'UMOA, en matière alors d'indice, alors de développement humain. Est-ce que ça veut dire que finalement, c'est le problème se trouve au niveau de la communication?
Dans tous les sens, je dirais oui. Qu'est-ce que je veux dire par dans tous les sens? Quand c'est bon et que le journaliste vient vers vous pour rechercher l'information, il faut le servir.
C'est aussi un autre problème.
Quand c'est mauvais et qu'il vient, il ne faut pas oser lui jeter à la figure au téléphone que ben, est-ce qu'il sait que c'est une société d'État? Qu'est-ce qu'il veut faire avec les chiffres? Parce que nous avons, pas plus tard que la semaine, cette semaine-ci plutôt, nous avons contacté un DG d'une société pour savoir la situation financière de la société parce que nous avons des informations. Qu'est-ce que le monsieur me répond? Est-ce que tu sais que c'est une société d'État? Comme si, parce que c'est une société d'État, moi, journaliste, je n'ai pas le droit aux informations financières. Quand c'est comme ça, là, tu voudrais que qu'on pense quoi de la gouvernance? Je ne vais pas donner le nom de la société ni le nom du directeur, mais j'attends qu'il se rétablisse. Je vais encore le relancer. Parce que l'information que nous avons là, ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas bon qu'il ne va pas nous recevoir et nous servir. Puisque dans d'autres sociétés où c'est bon, là, quand nous demandons, on nous sert.
Alors, vous évoquez là le sujet ou la question alors de la rétention d'informations.
Tout à fait. Et pourtant, il y a une loi de mars 2016 qui donne droit à l'accès à l'information. C'est l'occasion d'inviter tous les directeurs de sociétés et autres là à reparcourir cette loi-là pour adopter une autre posture quand un nombre de médias les approche.
D'accord.
Autrement, le citoyen restera dans le flou.
D'accord. J'ai vu votre réaction quand Firmé parlait. Vous voulez dire quelque chose?
Oui, enfin, ce que je voulais dire, là, il y a 2-3 semaines ici, on parlait de l'accès au crédit, par exemple.
Tout à fait.
On se disait que c'était compliqué, tout ça. Et on avait oublié de parler du FNFI, qu'on a semblé banaliser, mais la dernière fois, quand le bilan est sorti, vous avez presque 2 millions de Togolais qui ont bénéficié de ce fonds-là. Et on ne communique pas. Vous avez des femmes qui sont parties de 300 000, aujourd'hui qui prennent 6 millions au niveau du FNFI. Personne ne sait.
Individuellement.
La dernière fois, je disais à un ami,
individuellement.
Peut-être que les médias devraient aussi aller au FNFI. Parce qu'on a banalisé cette histoire-là au départ, qu'on donne des 30 000, des 150 000, des 300 000. Mais les femmes et les bénéficiaires qui ont été assidus, qui ont remboursé, qui ont évolué dans le programme, aujourd'hui ont de grands magasins. Et l'État porte sa caution et vous avez accès au prêt. C'est-à-dire qu'avant, il y a plusieurs citoyens qui étaient exclus du système financier ordinaire, comme on se plaignait la dernière fois. Mais grâce au FNFI, ceux qui n'avaient pas accès à ces financements en ont eu. Près de 2 millions de Togolais. Et aujourd'hui, quand vous voyez, par exemple, la tournure des élections, et quand vous sortez de Lomé, vous allez dans le village, pour eux, le pays a changé. Et nous, on ne comprend pas en ville pourquoi ils peuvent dire que le pays a changé.
Et les agriculteurs sont financés, c'est 11 milliards pour des crédits pour que les gens produisent et tout ça. Les pistes pour aller dans les zones où on peut livrer les produits, beaucoup de choses. Donc ça, tout ça, ça n'a pas été fait. Maintenant, ce que Godson disait qui est réel et sur lequel nous avons travaillé, c'est cette loi sur l'accès à l'information et à la documentation publique, le CONAP a organisé vendredi dernier, ça fait une semaine exactement, un atelier national sur cette loi, parce que, comme il le dit, la loi a été votée en 2016, le décret d'application a été pris en 2017, mais on ne profite pas de cette loi, c'est une volonté du gouvernement. Ailleurs, dans des pays où le Sénégal, il n'y a pas cette loi, vous demandez des informations, vous ne les donnez pas. Ici, la loi nous permet d'avoir cette information.
Et pourtant, les ministres refusent de nous servir.
Justement, nous-mêmes, on n'en profite pas assez. Parce que d'habitude, on pensait qu'ils ne donnent pas, on ne veut pas aller. Ou même quand on va vers l'information, la réalité, c'est qu'on n'utilise pas les formes. La loi a prévu des procédures. Quand vous appelez un ministre, vous envoyez un message, souffrez qu'il ne vous donne pas l'information. Parce que la loi a prévu que vous lui envoyez un courrier en bonne et due forme. Et qu'il a l'obligation, au bout de 30 jours, de vous répondre.
Tout à fait.
Et s'il ne vous donne pas l'information, vous avez au moins 3 voies de recours. Vous pouvez saisir le chef ou vous pouvez saisir le médiateur de la République qui n'a été saisi qu'une seule fois depuis que cette loi a été votée. Ou vous saisissez la justice. Donc maintenant, on ne va pas arriver là parce qu'il y a déjà une volonté politique que l'information soit accessible. Maintenant que des dispositions, le ministère de la Communication nous a rassuré la dernière fois que dans chaque ministère, on a désigné une personne qui peut donner l'information, qui est généralement le secrétaire général ou une autre personne qui choisit.
D'accord.
Donc, il faut une collaboration pour que les journalistes qui ont besoin de certaines informations puissent. Cette loi-là a le mérite quand même de faire que les citoyens sachent ce qu'on fait pour eux et qu'il y a une redevabilité, ceux qui nous dirigent rendent compte de ce qu'ils font pour nous avec notre argent.
Merci beaucoup, Germain. Sylvanus, par rapport surtout à cette question à l'ordre d'indice, c'est vrai, il y a Germain qui en parlait tout de suite, et vous avez vu avec des chiffres également à l'appui, on pourra dire quand même qu'il y a des efforts qui sont faits.
Oui, bien entendu, il faut être honnête envers soi-même. Quelquefois, il peut se dire que oui, effectivement, il y a des efforts qui sont faits. Mais je suis en même temps surpris quand les journalistes disent qu'ils étaient eux-mêmes surpris en ayant tous ces chiffres qu'on leur donne. Je voudrais dire simplement qu'on ne peut pas nous dire, on ne peut pas prétendre que, ou penser que la communication est la panacée donc de tous les problèmes. Moi, j'ai eu le privilège, pendant les élections législatives régionales, de parcourir pratiquement tout le Togo. Tout le Togo sur les 14 jours qui nous ont été donnés. Et j'ai pu constater que quand vous quittez Lomé légèrement, juste à partir de Thiéviers, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de choses qu'il faut faire en termes d'infrastructure, en termes d'amélioration des conditions, en termes même la nationale numéro 1, ainsi de suite. Les problèmes sont légion. Mais il ne faudrait pas non plus oublier que la communication aussi peut contenir beaucoup de contre-vérités. Parce que quand on en parle, ici, sur cette table, j'ai comme l'impression que le simple fait de communiquer suffisamment, le fait que le gouvernement communique énormément ou ne communique pas assez, donne l'impression que la communication reste simplement cette panacée à tous les problèmes. Non, la communication peut aussi contenir des contre-vérités qui vont donner l'impression à des gens qu'il y a des choses qui sont faites. Oui, il y a des efforts qui sont faits, qui sont consentis. Mais moi, j'estime que, comparativement à d'autres pays où, de façon extraordinaire, aujourd'hui, on remarque qu'il y a une avancée énorme, où même ceux qui sont des opposants, entre guillemets, la main sur le cœur, disent quand même que oui, il y a des choses qui sont faites, il y a beaucoup d'avancées. Je crois que nous devons arriver à cette étape où, au bout d'un moment, qu'on se dise que, au-delà des chiffres, est-ce que mon frère qui est juste à côté de chez moi, est-ce qu'il arrive à manger 3 fois par jour? Est-ce qu'il est fier de se dire togolais? Moi, j'ai eu la chance, d'ailleurs, j'invite les journalistes à faire ce sondage honnête. Aller vers les populations, à leur demander, en prenant un échantillon, à leur demander, mais est-ce qu'ils se sentent heureux de se dire togolais? Quel est le domaine où ils peuvent toucher et se dire que ça, c'est un domaine qui marche vraiment au Togo? Comparativement à d'autres pays, parce que quelqu'un me dira, la comparaison n'est pas raison. Oui, mais je crois qu'au bout de ces années de gouvernance, il faut, à mon avis, qu'il y ait
une certaine avancée où on peut être fier, où on peut se dire que voilà des domaines qui marchent chez nous. Voilà, venez, investissez chez nous. Hein, nous avons la garantie de que d'ici quelques années, les choses vont avancer. La plupart des jeunes, je vais finir là-dessus.
Rapidement.
Quand vous prenez 100 jeunes, je vous assure, même dans vos maisons, hein, mes chers aînés, beaucoup vont vous dire que eh bien, ils n'attendent que une débouchée pour quitter le pays. Mais pourquoi? Prenez quand on a fait les trucs de visa là
pour la le visa.
Vous avez vu la queue? Parce qu'en ce moment ils avaient exigé
un passeport.
C'était très très nombreux parce que apparemment les jeunes qui ont leur carte d'électeur sont en très peu nombre par rapport aux jeunes qui ont des passeports qui sont prêts à partir. Il faut simplement que ces chiffres se traduisent véritablement dans l'amélioration
des conditions de vie des populations. Merci beaucoup, Sylvanus. On va quitter le sujet. On parle d'un autre sujet. On sait que, nous avons été informés que depuis hier, il y a la dépouille mortuaire de Abiyomi Kodjo qui est au pays, bien sûr. Et l'enterrement, c'est dans ce week-end, bien sûr, à Tokpli, dans son village natal. Fermin, c'est vrai que depuis le décès de Abiyomi, de l'opposant Abiyomi Kodjo, le gouvernement n'a pas communiqué autour alors de cela. Ça veut dire tout simplement que il y aura aucune cérémonie officielle alors par rapport à ce décès.
Oui, c'est ce que moi j'attendais de voir en réalité. Parce que Abiyomi Kodjo, bon, il est mort avec une qualité d'opposant. Mais je me demande, est-ce qu'il faudrait toujours le considérer comme opposant? Abiyomi, c'est un homme d'État. Quoi qu'on puisse lui reprocher, Abiyomi a été premier ministre dans ce pays. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il a été ministre de la jeunesse. Donc Abiyomi, moi je le dis souvent que il a été le Togolais le plus béni en matière de poste. Donc il a servi le régime, il a contribué à construire ce régime qui est en place aujourd'hui. C'est-à-dire même si le pouvoir ne va pas lui rendre hommage, mais il faut que l'État lui rende hommage. Il faut que l'État lui rende hommage. Comme un ancien premier ministre qui a servi le pays. Et il a été un grand bosseur, quoi qu'on puisse lui reprocher. Donc c'est cela, c'est ce qui me gêne un peu, même par rapport à Monseigneur Kodjo. Moi, je n'ai pas vu de communiqué du gouvernement. Je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, à moins que ce soit une insuffisance à mon niveau. Parce que Monseigneur Kodjo aussi, il a été président de l'Assemblée nationale, c'est ce que les gens ne savent pas. Il était le président de l'Assemblée nationale du Togo. Il est mort, il était ancien président de l'Assemblée nationale. Pas d'hommage gouvernemental ou de la part de l'État à son endroit. Moi, je me dis que c'est un peu compliqué.
D'accord.
C'est un peu compliqué. Quand on considère pas Abiyomi Kodjo comme un opposant, c'est la démocratie. Mais il faut que l'État est là et pour le pouvoir et pour l'opposition.
Oui, Gosson, est-ce que ce que évoque Fermé n'est pas aussi réel? Parce que l'État est là pour l'opposition et le pouvoir. On l'a vu tout récemment avec la mort de Henri Konabedi en Côte d'Ivoire. C'est le président Ouattara et même d'ailleurs toute la classe politique qui s'est réunie. On se dit tout simplement que c'est un ancien président qui est décédé, c'est un fils du pays qui est décédé.
C'est triste, mais le fait est là. D'abord, le terme opposant, c'est un terme africain. Quand vous allez aux États-Unis, on parle de démocrate et de républicain. Vous n'entendrez jamais parler d'opposant. En France aussi, il y a la France insoumise, il y a le parti de Macron, le Rassemblement national. Mais on ne les appelle pas des opposants. Pourquoi c'est en Afrique qu'on colle cette étiquette à certains qui veut regarder autrement que la direction que le gouvernement fixe. Il serait temps qu'on quitte dans ça, comme disent les Ivoiriens. Et donc, pour revenir à la personne de Abiyomi Kodjo, que je n'ai jamais approché de près, c'est d'abord un fils du pays qui a servi des années le Togo et qui, à un certain moment, a opter de voir autrement la politique. Mais est-ce une raison pour que, après le chant du cygne à son endroit, on ne voie pas de représentation officielle à ses obsèques? Je veux croire que peut-être il y a des choses qui se préparent, mais dont on ne veut pas parler et que ce soir et demain, on sera agréablement surpris. Autrement, je le répète encore, c'est triste pour notre pays.
Sylvanus, est-ce que vous avez compris ce silence alors du gouvernement ou de l'État en général quand déjà il y a cette question alors de décès de l'opposant Abiyomi Kodjo qui est intervenu et même sa dépouille mortelle était là hier, mais rien n'a été signalé?
Alors, déjà, nous allons, je vais peut-être dire à nouveau que les journalistes ont peut-être raison quand ils estiment qu'il y a peut-être un manque de communication. Pas peut-être, mais il y a un manque de communication. Et comme l'aîné vient de le dire, il y a peut-être des choses qui sont en préparation dont nous ne savons pas. Donc, je vais parler avec beaucoup de retenue sur ce sujet. Je voudrais simplement dire que avant toute chose, il faudrait que nous comprenions que nous sommes d'abord fils et filles d'une même nation. Au-delà de toutes nos divergences de vues, nous restons d'abord fils d'un même père, qui est l'État. Et quand on devient, ou quand on a un poste électif, ou on te nomme à un certain poste, tu deviens un serviteur de la nation. En politique, on peut être des adversaires, mais pas des ennemis. Je pense qu'en Afrique, nous avons tendance à mélanger, à tout mélanger. On est des adversaires parce que nos points de vue, on vise la même chose, le développement, l'amélioration des conditions de vie des concitoyens. Mais c'est peut-être nos façons de faire qui sont différentes. Moi, je pense, ou du moins, tel va penser qu'il faut miser sur la santé, tel autre va penser qu'il faut miser sur les infrastructures, ainsi de suite. Ce sont les divergences, mais au finish, c'est que nous voyons pratiquement dans la même direction. Nous voulons simplement que nos pays quittent donc du PPTE pour l'émergence. Ça, c'est d'abord un. Donc, je voudrais juste dire cela pour que nous comprenions que nous ne mélangeons pas les choses. Les valeurs et les principes ont malheureusement foutu le camp quand on parle de politique. Et je crois que pour la position qu'a occupée un tel monsieur le professeur, le président, monsieur Agboyomé, président de l'Assemblée nationale, premier ministre, un docteur et tout ce qu'il, un grand serviteur de la nation, je crois quand même que la main sur le cœur, parce que, vous savez, moi, je n'ai pas envie de dire les choses pour faire plaisir aux gens. Je veux dire les choses qui me permettraient après, la nuit, quand je me regarde dans le miroir, que je me dise que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je voudrais juste que nos autorités comprennent que nous ne sommes pas chien et chat. Au-delà de toutes les divergences qu'on peut avoir, il est important qu'on ait des valeurs et qu'on se dise que oui, il s'est opposé à nous un certain temps, il a dit des choses qui ne sont pas bonnes, mais comme ailleurs on le fait, on prend de la grandeur sur ces divergences.
Et qu'il faut comprendre que ce n'est qu'un jeu.
Ce n'est qu'un jeu politique. D'ailleurs, pour ça que ça s'appelle, on dit jeu politique. Il est important que dans des cas comme ça, où d'ailleurs la mort, j'ai fini là-dessus, la mort c'est un chemin que nous allons tous passer. Donc il faut se dire que oui, il faut y aller pour soutenir la famille et puis ensemble renouer à nouveau les liens familiaux que nous avons.
Avec les pouces, occupé par le feu Abiyomi Kodjo, on pourra dire quand même qu'il mérite un hommage national.
Bon, en fait, quand moi j'écoute les confrères parler, je ne sais pas si ils ont vécu au Togo pendant longtemps ou ces dernières années qu'ils en parlent, parce que ce que je retiens qui est vrai, c'est que les acteurs politiques ne se comportent pas comme des adversaires, mais comme des ennemis. Maintenant, aller aux obsèques, là, je m'inscris en faux par rapport à tout ce qu'ils disent, parce qu'on a vu en 2005 quand il y a des mameurs, il y a des hommages nationaux. On n'a pas vu un seul opposant au palais des congrès, parce qu'ils le considéraient comme un ennemi. Peut-être Edem Kodjo, parce que lui, à l'époque, il était proche, mais tout, l'opposition, personne, les gens sont venus de l'étranger. Les gens étaient choqués de voir qu'il n'y avait pas l'opposition. J'arrive. La dernière fois, quand un opposant meurt, Patrick Lawson meurt, et que Babara se pointe là-bas et rend hommage à Patrick Lawson, et on se rend compte qu'ils étaient amis, vous avez vu tout le débat qu'il y a eu sur les réseaux sociaux.
Mais c'est pour compte tenu des propos aussi.
Les gens ne s'attendent pas à voir des adversaires aux obsèques de leurs adversaires. Ça, c'est dans la tête. Il ne faut pas qu'on se cache, ça sera de l'hypocrisie, que demain un opposant meurt, que quelqu'un d'une ira et pleurniché comme si c'était son meilleur ami. Je le dis, c'est pour ça que je donne l'exemple de Bahora. Au cas demain, quelqu'un meurt à une ire, et qu'un opposant aille pleurnicher là-bas, on ne verra pas ça. Parce que notre classe politique se comporte mal, mais c'est des gens qui se partagent les cartons de champagne, qui se donnent de l'argent entre eux. Mais ça, on ne verra pas.
Vous parlez de la classe politique en général.
Oui, non, mais je parle de quand. Donc, moi, je serais surpris de voir les gens d'unir là-bas. Parce qu'ils vont faire quelle tête là-bas? S'ils sont vraiment honnêtes, ils vont faire quelle tête? Ils seront accueillis comment là-bas? Donc, je donne l'exemple de Bawara aux obsèques de Patrick Lawson. Quand il a témoigné de leur proximité, les gens étaient plutôt choqués. Les gens étaient choqués. Même de savoir que c'est le président qui a évacué cet opposant là qu'on croyait être intraitable. Donc nous sommes avec une classe politique qui nous a habitués à faire croire que les adversaires sont des ennemis. Et on ne verra pas un ennemi aux obsèques. Non, quand moi j'écoute, après je dis non, soyons nous-mêmes. Les gens ne sont pas allés aux obsèques il y a des mois, c'était normal. Parce qu'ils estimaient qu'ils le combattent. Ils n'ont pas à lui rendre hommage. Ils sont plutôt fiers. On a vu, moi j'ai vu quelqu'un à la veille d'Agweome. Quand Pitanchala était mort, il avait dit, mais le déverrouillage a commencé comme ça. Mais je l'ai vu là hier. Donc la classe politique togolaise, c'est des gens qui n'ont pas donné de bons signaux aux Togolais. Mmh. Du coup, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire dans le malheur.
D'accord, ok.
Ils ne peuvent plus faire dans le malheur.
D'accord, nous allons quitter le sujet. Oui. Firmin, nous allons aller en France. On parle de la France, je sais que ça vous intéresse beaucoup. Parler même d'ailleurs de ces législatives anticipées. On sait que Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale et le dimanche dernier, le 30 juin, il y a eu un premier tour même d'ailleurs des législatives. Et ce qui est été surprenant, c'est que le camp au pouvoir est en train alors de perdre en quelque sorte la majorité à l'Assemblée, et c'est plutôt le Rassemblement national quand même qui prend le dessus, et qui occupe maintenant la première place déjà avec 33%, et le deuxième tour aura lieu le 7 prochain, c'est-à-dire le dimanche. Alors, quelle est l'analyse que vous faites alors de tout ce chamboulement alors en France?
Non, l'analyse est très simple, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que il y a des lobbies qui, à un moment donné, en complicité avec Sarkozy, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité, avec Sarkozy, qui ont essayé de détruire la droite et la gauche, et maintenant qui ont essayé de positionner Emmanuel Macron. C'est-à-dire, quand Hollande arrivait au pouvoir, il y a ces lobbies-là qui ont décidé, on a placé Emmanuel Macron à François Hollande, bon, tu fais de lui président. Donc, jusqu'à ce que François Hollande termine son mandat, donc ces lobbies ont essayé de diviser la gauche. Et de l'autre côté, au niveau de la droite, on a monté des gens pour parler de corruption contre François Fillon. Et donc, c'est à ce niveau aussi que la droite est détruite. Et en 2014, parallèlement, il y a Nicolas Sarkozy qui est arrivé, qui est allé, qui a tout d'abord fait un post sur Facebook, qui a dit, non, que le temps de la droite et de la gauche est fini, qu'il faut appeler maintenant à un vaste mouvement qui rassemble tous les Français. Et quelques mois après, Emmanuel Macron a créé son mouvement En Marche. Donc les Français sont retrouvés face à une situation très difficile. Il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Donc il faut juste voter Emmanuel Macron. Et à part Emmanuel Macron, il y a qui il faut voter? Il faut voter le FN, à l'époque Front National, qui va devenir Rassemblement National. Donc c'est pour cela qu'avec les deux élections d'Emmanuel Macron, on n'a pas vu la droite ni la gauche, mais on a juste vu Emmanuel Macron et le Rassemblement National. Mais aujourd'hui, les Français sont en train de se rendre compte que Emmanuel Macron n'a pas été vraiment utile pour les Français. C'est pour cela que même les gens de son propre camp, quand vous voyez le bulletin, vous ne voyez même pas la photo. Ils se sont interdits de mettre la photo d'Emmanuel Macron parce qu'ils se sont dit qu'avec lui, on va perdre. Donc Emmanuel Macron est en train de finir son temps en train de passer. Il faut maintenant un renouvellement de la classe politique française. Mais à ce niveau-là, c'est là où on parle de RN. Mais une chose est sûre, il sera difficile, RN, d'avoir la majorité le dimanche prochain. Ce sera tellement difficile parce qu'aujourd'hui, il y a assez de désistement. Donc, ils auront encore les 33% ou les 34% ou 35%. Maintenant, il y a le nouveau Front populaire et le parti d'Emmanuel Macron. Ça vient en troisième position. Donc, à l'Assemblée, on n'aura pas de majorité, pratiquement. Bon, à moins qu'il y ait une surprise générale. On n'aura pas de majorité. Donc, c'est un régime parlementaire un peu compliqué, classique, où les partis seront obligés de
d'organiser une coalition et de cette coalition sortira le nouveau Premier ministre. Donc, bon, les gens se disent pourquoi Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée. Donc, il a dissous pour une raison en réalité avec la constitution française, c'est un peu compliqué. Il n'arrivait plus à supporter le Premier ministre Gabriel Attal que lui-même il a nommé en janvier. Et vous allez voir un peu la position de Gabriel Attal. Il a dit Emmanuel Macron m'a nommé en janvier et maintenant vous, Français, vous allez me choisir le 7 juillet prochain. Donc, pour conclure, il faut savoir qu'aujourd'hui, la politique française est en train de connaître un nouveau rebondissement. Le 7 juillet prochain, on aura un Premier ministre et ce sera une cohabitation parce que, quel que soit le cas de figure, le Premier ministre sera issu de la majorité.
D'accord. Alors, ce qui m'intéresse, c'est par rapport à la position même d'ailleurs du Rassemblement National et notamment Marie Le Pen et Gosson. Finalement, quand on connaît l'idéologie de Marie Le Pen, s'il arrivait même d'ailleurs que ces gens-là accèdent alors au pouvoir automatiquement par rapport à la migration surtout ou à l'immigration en France, et ce sont des gens qui vont implémenter même d'ailleurs leur politique en chassant ceux qui sont alors les étrangers.
Bon, l'équation est très simple. Il s'agira pour le... Si jamais c'est le Rassemblement National, ils vont très bien s'entendre avec les pays d'où viennent les immigrés, avec les autorités de ces pays-là, pour que le verrou soit plus resserré. Et donc, c'est les futurs candidats à l'immigration qui n'auront que leurs yeux pour pleurer. Malheureusement, il se trouve que l'idéal aurait été que chaque citoyen reste dans son pays, sur son continent, pour vivre ou survivre. Mais qu'est-ce qui fait que autant d'Africains tentent par tous les moyens de rejoindre l'outre-Atlantique? C'est quoi le problème? Trouvez le problème et vous comprendrez que l'arrivée, si jamais le Rassemblement National arrivait au pouvoir, il y aura beaucoup de larmes d'Africains.
D'accord. Et Sivanus, est-ce que finalement, pour Africains que nous sommes, la destination ne serait plus la France s'il arrivait que les choses changent là-bas?
Non, mais écoutez, ça l'est déjà de toutes les façons. C'est vrai que généralement, les pays africains francophones, pour immigrer, regardent beaucoup plus vers la France. Peut-être parce que c'est plus facile de s'intégrer à cause de la langue. Et vous allez vous rendre compte que les anglophones aussi apprécient peut-être les États-Unis, l'Angleterre, et ainsi de suite. Mais je pense que dans le Rassemblement National, le programme qui y est... Peut-être c'est aussi de la mauvaise compréhension que nous avions forcément de la chose, mais il ne s'agira pas forcément d'expulser les Africains. Mais il considère simplement que la nationalité française, c'est quelque chose qui se mérite, et le droit de sol sera donc supprimé. Ensuite, avant, c'était automatique, mais maintenant, ça devrait se mériter. À 16 ans, il va falloir... En fait, à 18 ans, c'est le jeune qui va devoir... qui est né sur le territoire, qui va devoir prouver qu'il mérite véritablement la nationalité. Donc, il y aura du moins un chamboulement d'un certain nombre de choses. Mais on a remarqué quand même qu'il y a une montée du racisme avec la montée justement du Rassemblement National. Donc, c'est deux choses qui vont ensemble. Le Rassemblement National, malheureusement, a un programme qui ne fait pas donc le chou-fleur de tout le monde. Mais je voudrais dire que quand vous prenez Gabriel Attal, qui fait beaucoup dans le politiquement correct, et moi je l'apprécie pour ça. Vous prenez donc Bardella qui a un discours qui plaît quand même aux Français de souche, qui pense que voilà, ce grand ils ont un mot là pour dire ce grand
qui a rancœur,
c'est-à-dire qu'un grand changement, c'est-à-dire que c'est des gens qui viennent de remplacer les Français
révolutionnaires.
Donc moi je pense au final que ce genre de choses ne doit pas être promu. Maintenant, je retiens deux choses rapidement qui doivent servir de leçon, en tout cas pour nous dans les pays africains, c'est que il y a un renouvellement de la classe politique que moi j'observe dans la politique française, où on voit Gabriel Attal qui arrive à 35 ans, on voit Bardella qui a 28 ans. temps. Et pour moi, ce sont des choses qu'il faut promouvoir aussi au sein donc des partis politiques
d'accord.
en Afrique. Okay. Et la deuxième merci. Des choses, c'est l'honnêteté dans les urnes. Les élections ont été faites et sans violence, sans contestation, on s'est rendu compte qu'il y a un tel résultat, malgré que c'est le parti au pouvoir qui l'a organisé. Et les choses se sont faites tranquillement. Donc aujourd'hui, je considère qu'il faut une émergence d'une nouvelle classe politique et nous devons tirer des leçons de ce qui se passe aujourd'hui en France.
Merci, merci,
remarque,
merci.
Et je vais finir là-dessus. Comme remarque, oui. justement, que Marine Le Pen est vivante. Mais a quand même accepté de céder sa place à un jeune de 28 ans qui n'a même pas un diplôme universitaire pour prendre les rênes.
D'accord, merci beaucoup, Sylvanus. Oui, oui, Germain, alors, quelle est l'analyse que vous faites alors de l'actualité en France?
Ben, c'est comme dans d'autres pays en Europe, c'est l'extrême droite qui monte en puissance. Maintenant, le Front National a essayé quand même de faire un lifting. Ce n'est plus la même chose que sous les Pen Pères. Et donc, je crois que si la majorité des Français décident qu'ils viennent au pouvoir, ça se fait dans d'autres pays, hein, en Suède, un peu partout. Ça va se faire. Mais pour moi, c'est un peu la plainte des Africains qui me surprennent parce que nous sommes même en train de chasser les Français d'Afrique. Et on s'étonne que les Français nous chassent. Ça n'a pas de sens. Donc, je pense qu'on doit pouvoir rester chez nous et trouver des opportunités chez nous. Parce qu'en réalité, il y en a. Tous les jeunes qui veulent partir, il suffit de changer de mentalité, qui verront que partout où il y a des difficultés, il n'y a que des opportunités. L'Afrique, c'est un continent qui va se construire. Et tous nos cerveaux sont en train de partir. Tous ceux qui ont des bons diplômes, tous ceux qui sont jeunes, partent et développent ce pays-là. Vous voyez, un pays comme le Canada qui ouvre les bras ouverts et tout ça. Nous pensons, avant on pensait comme les Chinois, être nombreux ici, tout ça c'est un problème. Mais en réalité, c'est plutôt une opportunité.
D'accord.
On devrait réfléchir autrement.
Mais merci beaucoup, Germain.
Et nous développer.
D'accord. Merci beaucoup, Germain et chers confrères. Je pense quand même qu'on va en arrêter là, hein, par rapport au débat, parce que il y a nos auditeurs qui sont à l'écoute et le principe de l'émission, c'est qu'ils participent aussi à l'émission à partir de midi. Et donc, nous allons leur donner aussi la parole puisqu'ils s'impatientent à leur entrée en ligne pour participer à ce débat. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114 91 36 63 75 pour participer au débat de ce vendredi. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. Premier auditeur que nous insérons. Allô?
Oui, c'est Basile.
Oui, Basile, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va, et chez vous?
Oui,
d'accord.
Mon père à l'âme de ce père a donné bonjour. Là, c'est ce qu'il peut faire. Parce que c'est la voie que nous quittons, on va emprunter. Et puis, le pactement, on en avait déjà parlé. On ne sait pas, mais je vais redire ce que j'avais dit. Chaque fois que nous, on occupe un remplissage, moi, je tiens la tête. Parce que on peut imaginer. Pourquoi on ne fait rien et on est toujours premier? Bon, qu'est-ce qui est passé par là? Donc, moi, je tiens toujours la tête quand nous, on est premier. Parce qu'on ne fait absolument rien pour être premier. Merci.
Merci beaucoup, Basile, pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse et participer au débat, bien sûr, de ce vendredi 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Allô? 22 21 33 114. Allô?
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ah, ça va.
Votre nom, c'est...
C'est M. Kokou depuis Agbalpédo.
Monsieur Kokou depuis Agbalpédo, allez-y.
Je fais à l'âme de notre histoire. Seulement, ce que j'ai constaté qui ne m'a pas vraiment intéressé, M. Germain Pouli a parlé du temps de la mort du feu président Yadimang et que l'opposition n'était pas là et lors des cérémonies au palais des congrès. Bien sûr, mais aujourd'hui, M. Agbéomé, avant toute cette histoire, a servi notre nation en tant que premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Nous devons surmonter nos haines, hein, aller vers l'humain, montrer un bon exemple. Je dirais que ça nous manque vraiment en Afrique, et précisément chez nous ici au Togo. On doit, hein, remonter cette histoire-là, faire un bon exemple, donner un bon exemple, assister, faire des hommages nationaux à ce monsieur. Et là, demain, tout le monde comprendra que c'est comme ça se passe. On doit avancer. On n'est pas des ennemis. On n'est que des adversaires politiques.
D'accord. Merci beaucoup, M. Kokour. Merci beaucoup, M. Kokour. 22-21-33-114-91-36-63-75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. 22-21-33-114-91-36-63-75. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur, comment vous allez?
Ça va, et chez vous?
Oh, ça va, je salue le Club de la Presse.
Votre nom, c'est?
C'est Timothée, je vous appelle depuis Nanigbé.
Timothée depuis Nanigbé.
Oui.
Allez-y.
Ah, je salue vos confrères. J'aimerais pour le filmer Teko. Alors, je voudrais revenir vraiment sur le premier sujet qu'on a capté un peu en retard.
Timothée, oui, excusez-moi, ce serait mieux quand même que vous diminuiez le volume de votre poste qui est à côté de vous.
Ok, d'accord. C'est
alors, bon? Alors oui, c'est bon, allez-y.
Ok, d'accord. Par rapport à l'accès à l'information au niveau de l'administration au Togo, je pense que aujourd'hui, nous sommes en avance par rapport à certains pays, comme Germain Poulou l'a dit. Il y a certaines informations aujourd'hui que, au niveau du gouvernement, il y a certains ministères qui donnent certaines informations. Puis, vous voyez, certains confrères, bon, vous parlez de certains journalistes qui aujourd'hui ont pratiquement même accès même à l'information. Vous allez voir, mais vous allez vous demander d'où ils ont sorti vraiment cette information, qui leur donne cette information, tout en attendant. Je parlais de ceux qui sont dans l'investigation, si vous me le permettez. Donc, aujourd'hui, au moins, nous pouvons dire que chez nous, c'est bien. Il faut que, bon, qu'on ait au moins, comment l'appelle-t-on, au niveau de certaines administrations, aujourd'hui, on voit que non, pour avoir accès à l'information, c'est tellement difficile. Donc, comme il a cité le cas du Sénégal, c'est tellement. Le temps n'autorise pas, le gouvernement n'autorise pas. Même aujourd'hui, les pays de l'Interland, le Mali, le Niger, le Burkina, aujourd'hui, les journalistes souffrent d'avoir des informations. Mais chez nous, vraiment, bon, il y a quand même une avancée, mais que ça s'améliore.
D'accord.
Donc, je remercie le CONACO pour ça.
Merci.
Ma deuxième préoccupation,
oui, rapidement, Timothée.
De Gbeyoumé. Je voudrais vous dire qu'à Gbeyoumé, vous savez, il a été candidat malheureux en 2020 pour les élections présidentielles. Et il s'est autoproclamé président de la République. Il a son gouvernement. Maintenant, vous parlez de quel gouvernement encore? Quel gouvernement va faire sortir un communiqué à l'endroit de, peut-être, bon, pour son enterrement? Il a déjà son gouvernement à l'extérieur. Maintenant, jusqu'au jour d'aujourd'hui, son gouvernement n'a pas encore fait sortir un communiqué pour nous dire que voici notre président est décédé, voici. Maintenant, il n'a pas reconnu le gouvernement actuel ou bien le président actuel, le président fort Yassine. Maintenant, vous parlez de quel gouvernement encore?
D'accord.
Mais il a déjà son gouvernement, il a son premier ministre qu'on a connu.
Merci beaucoup, Timothée. Vous avez été largement été compris, bien sûr. 22-21-33-114-91-36-63-75. Allô?
Allô?
Oui, Papa Sordiné, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment vous allez?
Oh, ça va.
D'accord, allez-y.
Mais, voilà, des chiffres que vous donnez pour l'IDS, là. Mais où est-ce que le premier ministre peut faire juste là? Où est-ce qu'il a peut-être l'enquête? Bon, la souffrance que j'ai vu dans ce pays-là, notre pays est premier sur le rang ivoire et quatrième rang de voilà, TDAO. Mais vraiment, on ne croit pas, la souffrance là, tout le monde trouve dans ce pays. Bonne journée.
D'accord, bonne journée, papa. Pour votre intervention, merci. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse de ce vendredi. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô, il est parti. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô.
Allô.
Oui, bonjour. Allô, bonjour.
Allô, bonjour, le plateau.
Oui, comment vous allez?
Je vais bien.
Votre nom, c'est?
Moi, c'est Roro, depuis Sanguera.
Roro.
En ce qui concerne ce débat de Akouemo Kodjo, oui, cette division arrange un canon. Cette division-là, qui fait que si les opposants, soi-disant, meurent, on ne veut pas les assister, ça arrange un camp. Donc, c'est ça qu'il veut promouvoir. Donc, nous sommes dans ça.
D'accord. Ouais. D'accord. 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. Thomas, je pense que nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce vendredi. 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. C'est sur ces deux numéros. Le dernier auditeur qui se signale déjà. Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Oui, ça va, Dieu merci.
D'accord. Votre nom, c'est?
Comi.
Ah, Comi. Comment Comi. Vous allez?
Ça va aller chez vous.
Ça va aussi. Allez-y.
D'accord. Je veux m'attarder bien sûr les derniers hommages de ce Aguillaume Kodjo. Et je veux me positionner du côté du gouvernement pour dire que parfois il faut laisser les haches de guerre et donner le bon exemple. Quelqu'un appelait tout à l'heure pour dire que Aguillaume avec son gouvernement, tout en place. Est-ce que le Togo a reconnu et travaillé avec ce gouvernement. Plus loin, le gouvernement même, il parle de temps à autre que nous sommes un pays de paix, que le Togo, la vision du chef de l'État, c'est la paix. D'autres sont allés plus loin pour nous dire que le vivre ensemble, l'acte qu'ils sont en train de poser là, est-ce que ça conforte le vivre ensemble? Toi qui as tous les prérogatives du pouvoir, le plus faible qui est décédé, tu ne le tends pas la main. Nous autres qui sommes encore vivants, est-ce que tu nous en prends quoi? Donc, franchement, si après la mort aussi on peut tenir les haches de guerre, le pays est en danger.
Merci beaucoup, Komi. Et merci à vous tous qui avez participé alors à cette émission. C'est le principe de l'émission. Et c'est une émission interactive et vous aussi, vous avez alors le droit d'intervenir et de donner votre point de vue. Vous l'avez fait. Merci beaucoup à vous. Nous revenons en plateau alors pour un dernier tour de table et clôturer l'émission de ce vendredi. Sivanus, vous avez écouté vos compatriotes et qui se sont prononcés aussi sur l'actualité telle que nous l'avons débattue ici au club de la presse. C'est quoi votre réaction?
Alors, je vais juste dire que pour le IDH, il est important que les chiffres se traduisent dans les faits et que sur le terrain, que les citoyens ressentent véritablement qu'au fil des années, leurs conditions de vie s'améliorent. Ça, c'est un. De deux, pour les obsèques pour le docteur Béomé, il est important, comme vient de le mentionner tout à l'heure le dernier auditeur, il est important que souvent que nous déposons la hache de guerre et que nous nous regardons en face, que nous nous asseyons, que nous discutons. Nous sommes, on peut devenir adversaire politique, ce n'est qu'une question de vue, mais pas des ennemis politiques. La politique, c'est convaincre avec la force et la qualité des idées et non par la violence et l'invective. Je vais finir en disant qu'il est aujourd'hui important qu'il y ait un renouvellement de la classe politique tout entière pour qu'émergent de nouveaux jeunes qui comprennent que quand on entre en politique, on entre pour devenir des serviteurs de la nation. On entre en politique pas pour se goinfrer les poches, pas non plus pour lutter contre les gens, mais qu'on fasse les choses avec valeur, avec principe, pour qu'ensemble, au lendemain, quand nous ne serons plus là, comme Sankara, comme Mandela, que nos noms soient inscrits sur des tableaux d'honneur et que les générations se souviennent de nous.
D'accord, merci ici Evanouis. J'aimais Pauli.
Oui, je crois que pour Agbeyome Kodjo, on souhaite un repos éternel à son âme. Et on espère, comme l'a dit tout à l'heure Sylvanus, qu'il y aura une nouvelle classe politique qui va revoir la copie, voir les relations entre ceux qui se posent et ceux qui sont donc au pouvoir. Et s'agissant de l'IDH, je crois que le gouvernement a compris, peut-être avec l'exercice d'hier, qu'il faut davantage communiquer pour que les citoyens sachent ce que l'État fait et adhèrent mieux aux politiques. Et pour le développement de ce pays, je crois que c'est un espoir, ce qu'on a eu comme chiffre. Et on espère que d'ici l'année prochaine, pour la feuille de route gouvernementale, un bilan nous sera fait et qu'on pourra communiquer là-dessus. Et moins important, c'est à l'endroit donc des jeunes, par rapport à l'artisanat aujourd'hui, l'école ne paie plus. Il faut entreprendre, il faut être commerçant. Mais l'artisanat est un secteur très porteur et j'invite surtout les étudiants qui ont des talents dans plusieurs domaines. Le président de l'Union des chambres de métiers parle de plus d'une soixantaine de métiers et je crois qu'il y a des gens qui pourront devenir millionnaires en s'investissant dans l'artisanat plutôt que de continuer à gonfler le nombre de ceux qui connaissent, ont la connaissance livresque, mais ne savent rien faire par leurs mains et qui ont du mal à s'insérer dans le tissu social.
D'accord. Firmin, t'es quoi, Beau?
Oui, deux petites choses. Par rapport au deuil à Agbeyome Kodjo, moi, je pense aussi on voudrait régler ce problème-là, il faudrait commencer avec le sommet, avec le général Yadema. Je l'ai dit l'autre fois que j'ai l'impression que la famille Nyasingbe s'approprie le général Yadema. Yadema, c'est son père, mais c'est le président du Togo. Bon, si on pourrait démocratiser cela, c'est-à-dire le 5 février, que le 5 février soit organisé sur toutes les avenues du territoire national et qu'on invite tous les Togolais à aller à la messe, qu'on se cache pas à Pia et puis qu'on rende hommage à Yadema. Yadema, c'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour tout le monde. C'est le président du Togo. Et qu'on appelle tous les opposants, tous les Togolais, à aller lui rendre hommage le 5 février, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et puis ça va permettre de faire disparaître un peu le clivage. Donc après ça, on fait ça pour le général Yadema. On fait la même chose aussi pour Sylvanus Olympio. Le 13 janvier, on invite tout le Togo, même le président de la République aussi va se rendre
à un endroit.
Pardon?
Le corps n'a pas été
rapatrié. Il n'a pas été rapatrié, mais qu'on organise une messe sur tout le territoire, comme on le fait pour Yadema. Que les choses soient démocratisées et ça va éviter de rester encore dans ce clivage-là.
D'accord.
La deuxième chose, et pour conclure, c'est avec cette histoire de nos frères noirs qui souffrent en France. N'ayez pas peur. Même si le RN arrive au pouvoir, aucun noir ne sera chassé. Parce que ce que les noirs rapportent à la France, c'est des milliards d'euros. Sarkozy avait essayé, pendant sa campagne, il avait dit, lorsque moi je serai président, je vais rompre la France-Afrique. Lorsqu'il est arrivé au palais de l'Élysée, on lui a dit, monsieur, ce que les chefs d'État africains cotisent, c'est avec ça qu'on paie les retraités français.
D'accord. Et Gosson?
Oui. Firmin vient de m'inspirer. Oui. Et après, Papa Yadema et Sylvanus, il faut qu'on démocratise le nom du président actuel, Faure Gnassingbé. Je me rappelle, quand Gogué avait assumé l'intérim, un secrétaire général du parti, c'était lors de l'anniversaire de notre président, Faure Gnassingbé. Il a demandé à ce que les autorités de Blita, et les membres d'Unir, comme si Faure Gnassingbé appartenait seul à Unir, C'est mon président, c'est votre président. Donc, il n'y a pas que ces deux-là. Mmh. Le président actuel aussi doit être démocratisé.
D'accord.
Pour revenir à l'IDH, aujourd'hui, je comprends mieux le classement parce qu'on a lancé l'affaire de assurance maladie universelle. Mais j'aurais aimé que ceux qui ont fait le rapport le PNUD approchent les assujettis.
Non, il n'y a même pas ça dedans.
Ah.
Il n'y a pas la mue dedans.
Il n'y a pas la mue.
Non, ça d'accord. La mue okay. Vient de démarrer en avril.
Et pour dire aussi qu'en matière d'éducation, quand on parle de 5 000 classes, je me rappelle que dans la feuille de route gouvernementale, c'était prévu 30 000 classes à l'horizon 2025. Donc si aujourd'hui on en est à 5 000, il n'y a pas de quoi se jeter des lauriers. Hein.
D'accord, ok. Merci beaucoup, Godson, Keto Mania, d'être passé dans cette émission. Sylvanus, merci d'être passé. Hein. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Jamais Poli, merci à vous. Fermette Akouagbo, merci à vous d'être passé aussi dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission Club de la Presse de ce vendredi. Merci à Thomas et Ted à TV qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Lossou, je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien, passez un bon week-end.